Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des...
Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Blanc.
Et des...
Zip, shabam, pow, blanc.
Bienvenue sur Radio B. Vous connaissez l'émission, c'est Pique Bulles. C'est l'émission qui pique les bulles et puis ça fait des flashs. Voilà.
Des bulles pyrotechniques. Curieux concept.
Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, on fait un spécial manga. Alors moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que le manga? Alors, manga, c'est un fruit exotique, non? Pour moi, ça évoque des espaces lointains et des images luxuriantes. Ah, manga, la BD. Ah, ok, ça c'est la mise en page déstructurée ou restructurée. Dans quel sens la lit-on? Tout un monde à découvrir. Nous allons essayer de vous diriger dans ce dédale. Ça c'est pour la lecture. Belle balade et bonne lecture. Pour nous guider, nous avons confié... Je sais pas pourquoi je vais confier quoi que ce soit. Nous avons convié Maxime de la librairie Mangaya.
Bien le bonjour.
Voilà. Et qui va nous éclairer. Je vais le laisser se présenter et ouvrir cette émission. Vous êtes bien sur Radio B, spécial Banga. Zut, ça c'est une boisson, je suis désolé. Voilà, Maxime, à vous la parole. Il va falloir défricher.
C'est parti. Eh bien, bien bonjour. Donc, moi je suis Imot Maxime, je travaille à la librairie Mangaya qui s'est récemment ouverte donc, sur Bourg-en-Bresse en juillet dernier. Et donc, je vais contribuer bon an mal an, et au gré de mes modestes aptitudes sur la question, à introduire la question du manga dans cette émission. Alors, qu'est-ce que le manga? Le manga, c'est la bande dessinée japonaise, souvent rédigée en noir et blanc, avec le sens de lecture original, donc de droite à gauche. C'est un produit culturel qui a un système d'édition un peu particulier, par opposition donc, au système occidental, en cela que c'est une production qui est effrénée, souvent très rapide, souvent dans des périodiques en prépublication, comme Shonen Jump. Et les éditeurs ont beaucoup de pouvoir sur les mangaka, donc les dessinateurs, sur la question. Ils peuvent exiger une interruption de publication, ou au contraire une poursuite au détriment de la santé de l'auteur, par exemple.
C'est un peu l'histoire aussi.
Effectivement.
Ouais. C'est un peu le système du studio américain
oui,
dans le
comics. Oui, c'est un peu ça.
Mais sauf qu'à la limite, il y a plus d'abattage, hein, parce que c'est...
Littéralement, c'est... oui.
Au nombre de pages, c'est quand même assez impressionnant.
Aujourd'hui, le manga, ça représente plus du tiers de toute la publication papier du Japon.
Ouais. Et j'aimerais juste rappeler un truc, parce que j'ai retrouvé ça dans les fiches que m'a fait Anne.
Oui, la petite voilà. Secrétaire.
Non. Le mot manga, ça veut dire image dérisoire ou dessin non abouti.
Alors, à proprement parler...
C'est ce qu'on a trouvé sur Wikipédia.
Donc, le mot manga est constitué de deux idéogrammes,
ouais.
De kanji. Ga, qui désigne l'action de représentation graphique, et man, qui désigne effectivement une manœuvre involontaire, sans but ou simplement une exagération.
D'accord.
Le mot manga, à proprement parler, ça désignerait un dessin au train libre ou une expression plus libre par le graphisme.
D'accord. Et comment est-ce qu'on retrouve ça dans le manga? Parce que je sais qu'au départ, le manga, c'était imprimé sur du papier d'assez mauvaise qualité, en général.
Ça nous... Non, pour remonter à l'étymologie du manga, ça nous ferait remonter pratiquement à l'ère Meian, donc avant le XIIe siècle, sur la question des emakimono. Emakimono, souvent, donc c'était tout simplement des rouleaux dessinés qu'on déroulait au fur et à mesure,
d'accord.
Et l'histoire se déroulait comme le rouleau. C'était
d'accord.
Un peu l'ancêtre de la bande dessinée japonaise.
Et dans cette bande dessinée japonaise de l'époque, est-ce qu'on avait déjà des bulles ou des choses comme ça?
À proprement parler, non. Souvent, c'était des estampes, du graphisme à la peinture, avec ouais. au fond du rouleau une explication narrative.
D'accord.
Souvent succincte, pour ne pas dire trop souvent inexistante.
Des sous-titres, enfin des choses comme ça.
Ouais.
Comme des légendes de gravure, peut-être?
C'est ça.
D'accord.
Tu le fais exprès.
C'était une variante, Jean-Marc.
C'est comme Topfler, l'allemand Topfler.
Oui, Rodolphe.
Ou alors, si on prend Bécassine, par exemple, c'est marqué en bas.
Mm-hmm. Oui, si on prend Mandrake, le magicien,
aussi,
c'est effectivement aussi écrit en bas.
La première apparition du terme manga, c'était une terminologie d'Okusai, donc un artiste japonais mondialement connu, qui s'en servait pour définir ses recueils d'estampes improvisées, et ce, dès 1814. Ce qu'il appelait d'ailleurs la littérature en estampes.
Et là, on faisait des imprimés déjà.
Non, non.
On faisait des bouquins.
C'était
toujours
des estampes donc enroulées, donc les imakimono qui circulaient.
D'accord.
Qui aujourd'hui sont la plupart du temps exposées.
Elles circulaient comment
De main à main, d'artiste à artiste et de lettré à lettré.
D'accord. Ok.
Par titre de comparaison, par exemple, l'équivalent de la fondation de la bande dessinée occidentale, faite par Rudolf Toffer en 1827, un Suisse, se faisait pratiquement 10 ans après.
D'accord.
Oui.
Anne ?
Oui.
On t'entend plus ?
Non, mais j'écoutais, j'étais très attentive. Donc, que nous ayons effectivement défini le manga et vu à quel point effectivement c'est ancien, je vous propose d'écouter un peu de musique. Qu'en penses-tu, Jean-Marc ?
Fort bien.
Tout le monde aura reconnu Steve Miliband, Fly Like an Eagle. Donc, c'est l'aigle qui monte vers le ciel.
Oui.
Et c'est exactement ce qui arrive à notre personnage.
Oui, qui monte vers le sommet des dieux.
Voilà, le sommet des dieux.
Oui.
Alors, ce livre, donc c'est de Yukimera Baku, et le dessin de, ça c'est dur, hein, Jiro Taniguchi. J'ai pas fini aujourd'hui.
Oui, tu n'as pas fini d'en baver, Jean-Marc, avec le nom des artistes.
Alors, c'est, oui. c'est encore une histoire de quête. Hein. C'est,
oui.
C'est quelque chose.
Initiation.
Essayer oui. de toucher le ciel, quelque mm-hmm. part, hein, d'aller plus près du ciel. Moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup touché parce que ça commençait par. Ça commence. En partant par la fin, bien sûr, parce que c'est à l'envers. Et ça
Jean-Marc,
commence
tu
par.
Tu ne feras jamais, c'est le sens de lecture.
Ça commence par l'aventure de Mallory.
Mm-hmm. Oui, 1924.
Qui a été... Exactement, merci. Mallory, c'est celui qui aurait pu, parce qu'on n'est pas sûr du tout, atteindre l'Everest en premier, le
oui.
sommet de l'Everest.
Mm-hmm.
Malheureusement, on a retrouvé son corps...
Un petit peu plus bas, oui.
Un petit peu plus bas.
Mm-hmm. Dont on ne sait pas s'il était évidemment en phase de descente.
Alors, est-ce
ou
qu'il était arrivé
d'ascension.
Voilà. En tout cas, il était couché, il était mort.
Voilà, il était...
Il
ne bougeait plus.
Voilà. Ouais. Il était congelé. Bon. Mais ouais, ça m'a touché parce que j'ai. Je fais juste une parenthèse. Parce que...
Oui, raconte-nous ta vie, Jean-Marc.
Non. J'ai créé une nouvelle sur Mallory parce que c'est une histoire qui me passionnait. Je trouvais ça très
juste
bizarre.
Juste titre, oui.
Ouais. Voilà. Bon, oui, je ferme la parenthèse. Voilà. À part ça, c'est. Oui, c'est une quête. C'est. Très intéressant, c'est massif, hein. C'est quand même un petit pavé.
D'autant plus que ça n'est que le premier volume qu'on a là.
Oui, certes. Oui, parce qu'il continue à monter après.
Oui, l'histoire ne s'arrête pas au premier volume, oui, ça continue.
Et ce qui m'a surpris, mais j'étais content parce que j'ai compris tout seul, mm-hmm. c'est que le dessin est assez inspiré de l'école belge.
Effectivement. Taniguchi, c'est très clair, c'est très expressif, c'est un excellent choix du cadrage et du cadre.
Dans la préface, que j'ai lue après, hein, j'ai pas lu avant, hein. Enfin normalement ça se lit avant la préface, mais bon c'est pas grave. Et c'est bien confirmé que c'était un grand collectionneur de bandes dessinées belges. Et c'est vrai que quand on regarde les traits des personnages, etc., ça a beaucoup plus un côté franco-belge qu'un côté japonais. C'est moins tranché.
La représentation des visages, notamment, plus droite, les mâchoires sont plus proéminentes, c'est assez évident.
Après, quand on les voit barlotter assis par terre, on comprend que ça se passe au Japon.
C'est très rectiligne, il y a cette espèce de froideur, en fait, de ce style franco-belge, qui peut rappeler, par certains côtés, Hergé ou encore Jacobs.
J'ai pensé à Jacobs beaucoup.
Oui, avec les contours. Et par contre, Hiron, en fait, avec cette traduction, les personnages se retrouvent dans des paysages. Là, par contre, c'est complètement différent.
Oui,
il faut dire que le sens de la nature, en fait, chez les Japonais, est tel que c'est la perfection, la nature.
C'est ça. Une iconographie japonaise, après. Mm-hmm. Une estampe japonaise.
Oui.
Si vous voulez, je vous invite pour voir mes estampes.
J'ai le recueil d'Okusai sous les mains.
Oui. Donc, Jiro Taniguchi est mort très récemment, en fait, au mois de février. Et pour ma part, c'est vrai que c'est un auteur, un dessinateur que j'adore, parce que vraiment, c'est le manga très intimiste. Il a eu beaucoup de succès pour ça en France. Et puis, on retrouve... j'avais en tête Terre de rêve, mais l'alpinisme a vraiment un sens très très profond chez lui. Donc c'est le sommet des dieux, c'est l'histoire des grands alpinistes à travers évidemment l'histoire japonaise de l'alpinisme. Mais on retrouve évidemment, moi j'ai un ami qui fait partie du club alpin français et qui m'a fait découvrir le sommet des dieux. Bon, d'accord. Il n'est pas allé encore sur l'Everest. À chaque fois que je le vois, je dis...
Non, mais le Mont Blanc.
Oui.
Mont Blanc, peut-être.
Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est absolument magnifique. Donc, en plus, l'histoire est très intéressante puisque c'est celle d'un journaliste qui se retrouve à Katmandou et tombe sur un appareil photo, un vieux Kodak, qui en fait aurait appartenu à Mallory. Et donc, ce vieux Kodak va devenir l'objet par lequel il va cheminer dans l'histoire de l'alpinisme japonais.
D'ailleurs, on se promène beaucoup dans ce livre, puisqu'on termine dans les Alpes.
Exactement, on part du Népal, et puis les personnages se retrouvent au Japon, puisque le journaliste mène une enquête principalement au Japon. Et évidemment, là où ça commence par une aventure finalement assez linéaire, assez classique, eh bien, la structure devient de plus en plus complexe, avec un effet de, comment pourrait-on dire, une structure en tiroir. Je ne dis pas que c'est structuré comme les mille et une nuits, mais le personnage rencontre des gens qui lui racontent des histoires, qui lui racontent des fragments en fait, de l'histoire d'un homme.
Citizen Kane.
Oui, tout à fait, exactement, pour cerner un personnage. Oui, exactement. Donc,
à défaut de Luge, le Kodak fera l'affaire.
Oui, voilà. Non, on ne doit pas dire ce qu'il en est de la fin de Citizen Kane.
Rosebud. Rosebud,
oui.
Oui, mais c'est un truc que j'adorais. J'ai trouvé ça très, très bien.
Oui.
Et c'est une belle épopée. Enfin, une belle épopée, une belle ascension. Voilà, c'est facile à dire.
Oui.
Et une belle recherche. J'aimerais bien lire la suite. Mais j'ai pas eu la chance de lire la suite.
Mais nous y verrons.
Merci. Voilà. Donc, on le garde celui-là. Hein.
Oui. Hein. Ah, oui, de toute façon, pour qui aime le manga, c'est absolument indispensable. Et c'est passionnant.
Ok. Je voulais juste faire une précision sur le manga, mais ça, Maxime, vous pourrez me le dire.
Je vous écoute.
Pourquoi est-ce que la France a adopté aussi facilement le manga ?
Une proximité culturelle qui a toujours été le cas, qu'il s'agisse des arts martiaux, qui historiquement s'était implanté très rapidement dès 1954, même un peu avant. Proximité commerciale.
L'arrivée du manga, c'est les années 70, en gros,
La première publication, on va dire grand public, sur la question du manga, c'était dans le Cri qui tue, en 1978, si je ne me trompe pas.
Ouais, j'étais pas loin. Oui, le cri qui tue, je m'en rappelle.
Effectivement, le manga, comme la culture japonaise, est particulièrement bien représenté et présente en France. Les enseignants japonaises des places, etc.
C'est vrai que c'est moins bien représenté, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre.
La culture du bande dessinée, de la bande dessinée bon marché, on va dire, est éclectique sur ces sujets, était moins présente en Europe qu'aux États-Unis où les comics étaient publiés sur sur du papier poubelle à l'époque.
Ouais, j'allais dire du papier cul. Ouais. Mais bon.
Et du papier jauni qui stordait, etc., mais qui était destiné à une consommation de masse. Inversement, en Europe, souvent, la bande dessinée, c'était le 7ème art, justement, quelque chose qui était apprécié, souvent avec des beaux ouvrages, donc destiné à la collection.
Oui, avec des beaux albums, etc., des belles couleurs, des belles impressions.
C'est ça.
Et tout ça. Voilà, c'était juste un éclaircissement que je voulais. Avant qu'on entame la suite.
Oui,
c'est parti.
Jean-Marc.
Ah oui, c'est moi, pardon.
Tu étais absorbé par cette magnifique musique.
J'étais absorbé par l'écoute de la musique, voilà.
Oui.
Donc c'était la musique du film
Ghost in the Shell. Oui, de 1996.
Voilà,
donc le dessin animé de Mamoru Oshii.
Ouais. Donc c'est un fantôme qui se trouve dans une coquille.
Non, ne
vexez pas
comme ça.
Ne vexez pas les fans de manga de cette ville.
Oui, voilà, exactement. Tu as deux personnes qui sont totalement fous, amoureux du Major Motoko Kusanagi. Donc,
voilà. Ouais, j'arriverai pas à le prononcer.
Donc tu prends un risque terrible.
D'accord.
Oui. Donc c'est le dessin animé de 1996 et sort demain donc le film avec Scarlett Johansson du même nom en fait, Ghost in the Shell, donc à voir hein, pour
comparer. Donc il est sorti de sa coquille en fait.
Oui, exactement, qui était un reboot
en
même temps
reboot hollywoodien de la série.
Oui, oui.
Je crains donc, une édulcoration massive de tout le propos philosophique de l'œuvre.
Oui.
Et je suggère d'ailleurs au public, aux éditeurs de confisquer les objets qu'on te donne à l'entrée du cinéma.
Oui.
Sait-on jamais.
Oui, de déchirer l'écran. Ou de...
Voilà.
Oui.
Mm-hmm. Bon, on en parle un petit peu.
Oui, ah ben là, nous avons...
Tu connais bien, quoi.
J'aime beaucoup. Hein. Donc, nous avons, évidemment, sous la forme de la publication d'un album, sous les yeux, Ghost in the Shell, donc le manga d'origine de Masamune Shirow.
Oui, mais dans le bon sens.
Oui, dans le bon sens. Oui, sans doute l'effet Akira qui fait que...
Au début, tous les mangas étaient justement plus modifiés pour se mettre dans le moule, on va dire, du sens de lecture occidentale. Ouais. Et c'est seulement à partir de la moitié des années 90 que, l'ordre de parution initial et original est maintenu. Plus par raison de frais de publication qu'autre chose.
D'accord, effectivement. Je tiens aussi à souligner qu'en 1996, à la sortie, enfin 95-96, à la sortie du film, était également sorti un petit livre que j'ai, qui raconte le film sous forme de manga à partir d'extraits d'images du film.
Je l'ai aussi.
Et il est dans le sens de lecture du manga traditionnel. Oui. Donc ici, nous avons Ghost in the Shell, qui est apparu. Alors malheureusement, je ne me souviens plus du nom de la revue, mais qui est apparu...
Animal Land, si je me souviens bien.
D'accord, en 1989, dès 1989. Et en fait, comme j'en ai déjà parlé au cours de cette émission, eh bien, je vais redire la même chose qui est totalement stupéfiant, c'est que Shiro est considéré comme un visionnaire par rapport au monde, évidemment, des ordinateurs, parce qu'il a vu, en fait, toute la puissance et, je dirais, toute la remise en question du monde humain et de la vie humaine organique à partir de la dimension, démentielle de tout ce qui est connexion. En fait, donc tout se passe en 2029, en fait, dans un Japon ultra connecté, avec évidemment, et c'est le côté SF, hein, parce que je ne crois pas qu'en 2029 on soit à ce stade d'avancée technologique, à moins de faire un bond stupéfiant dans les quelques années à venir. Mais
ça va vite, hein.
Mais il se trouve que les États sont menacés par, je dirais, les façons de faire plus ou moins bizarres de grandes multinationales, et que une sorte des formes de terrorisme se sont multipliées autour de ce que l'on a appelé, on en a parlé, hein, le standalone complex, c'est-à-dire en fait le fait que, c'est un concept philosophique, le fait que étant dans une société de plus en plus connectée où nous sommes nous dans nos sociétés actuelles avec des applications qui sont les mêmes, nous sommes assez influencés par ces applications pour finalement développer des vies qui sont parallèles les unes aux autres, mais qui finalement ne se rencontrent
analogue.
Oui, voilà, et qui de ce fait que nous sommes tous pareils dans des vies parallèles, à cette formalisation de l'humain autour de ces connexions, eh bien, se développe du piratage d'un côté et puis des formes de violence, de résistance de l'autre. Voilà. Et donc, pour, restaurer l'ordre, des êtres très particuliers sont construits, qui sont les cyborgs, avec pour particularité d'être constitués de quelques cellules humaines, ghostées, c'est-à-dire copiées au sens informatique du terme, pour être assez humains, pour être autonomes, avoir, assez de capacités technologiques pour pouvoir mener à bien des opérations, en avoir une visualisation complète, et puis pouvoir se connecter et pirater à leur tour, donc hacker, on dira plus exactement, et pas pirater, hein, hacker donc des systèmes informatiques et de façon toujours à la limite extrême, aux confins de la légalité, pouvoir intervenir sous la forme de commandos façon GIGN ou RAID. Donc c'est le cas du Major Motoko Kusanagi.
C'est méchant de dire ça, c'est pas bien.
Et donc le Major Motoko Kusanagi dirige donc une petite équipe, celle de la section 9. Et donc le manga, c'est l'histoire de toutes ces aventures entre guillemets, hein, qui petit à petit vont dans le deuxième volume s'orienter vers un être qui s'appelle le marionnettiste, le Puppet Master, avec qui donc elle va connaître, bon, les amateurs évidemment connaissent ce qui arrive, une fusion telle que son être va en être complètement modifié. Voilà, donc c'est un manga absolument merveilleux.
Ah, super. La dystopie cyberpunk par excellence, qui a pratiquement lancé le genre à lui tout seul.
Oui.
Et pour beaucoup, moi y compris, ça a été une introduction au concept de métacognition et du transhumanisme. Et des problématiques que ça pourrait causer, notamment économiques, que l'auteur pose avec justesse ici.
Oui, vertigineuses, effectivement.
Excusez-moi, Anne.
Oui.
J'aimerais vous faire plaisir.
Oui.
Ça m'a fait penser un petit peu à V pour Vendetta d'Alan Moore.
Alan Moore traite pratiquement des mêmes sujets, mais il se focalise surtout sur la question de la nature humaine. Ou ouais. Ici, justement, Shiro...
Moi, ça m'a un petit peu rappelé ça. Enfin, je suis désolé, je peux me tromper.
Oui, je pense qu'effectivement, chez Alan Moore, on reste dans la vie organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transhumanité. Après, se pose la question... encore une fois du monde au sens politique du terme, et c'est ça qui fait vraiment la richesse de Shiro comme de Alan Moore, c'est-à-dire que il pose de façon extrêmement détaillée et extrêmement impactée en fait le devenir politique d'une société qui finalement est très pessimiste quant à son amour de l'humanité. L'humanité, qu'est-ce qu'elle fait à travers ses dérives fascistes ou à travers ses dérives transhumanistes? C'est ni plus ni moins que refuser de s'aimer et de s'accepter. Donc, elle a toujours cette tentation du pouvoir absolu. Et l'un comme l'autre, effectivement, décrivent ce pouvoir absolu.
On arrive à se retrouver un peu.
Oui, quand même, effectivement. Mais dans Ghost in the Shell, c'est plus compliqué au sens où c'est plusieurs pouvoirs qui s'affrontent. Mmh. Là où chez Alan Moore, ça reste encore dans le cadre de comics et dans ce que Gilles Deleuze aurait appelé le dualisme typiquement américain, enfin typiquement anglo-saxon, je dirais, de l'affrontement entre deux camps. Or, c'est pas du tout le cas, en fait, dans Ghost in the Shell. Il y a un personnage principal, mais on voit bien qu'elle est au service de sa question, la question du Major Motoko Kusanagi, c'est la question de son évolution, du soi, effectivement, de son âme et de son libre arbitre.
Que suis-je, où vais-je?
Oui, voilà.
Pourquoi?
Sur quelle étagère? Bon, elle était facile.
Oui, elle était facile, Jean-Marc, alors je te demanderai de te lever et de partir.
Disons, pour la perspective, Alan Moore focalise souvent sur la destinée commune des humains, ou d'une société proprement dite. Ça se ressent dans Watchmen, ça se ressent encore plus dans V pour Vendetta, avec plus de virulence. Pour ce qui est de Shiro Masamune, souvent, la question qui se pose, c'est le devenir de l'humain en tant qu'individu. Hmm. D'où le rapport systématique ou l'usage systématique de monologue ou de narration personnelle.
Est très marqué effectivement par le dessin animé de Mamoru Oshii qui va encore plus marquer justement cette particularité. Oui. Oui. Jean-Marc, tu me regardes. Alors on va rappeler, rappeler Ghost in the Shell.
On a oublié de donner le nom de l'éditeur.
Il ne vois pas. Ça n'est qu'un code barre, c'est Glénat.
Si, c'est Glénat.
Oh, bah, Glénat.
Quand même.
Merveilleux.
Glénat, c'était les précurseurs de la publication du manga en France.
Exactement. Voilà, donc on garde.
Oui, on garde.
Et puis, il faut y aller, on n'a pas beaucoup de temps.
Exactement.
C'est pas beau, l'île aux enfants.
Oui.
Ah, là, j'ai rajeuni, là.
D'un c'est coup. Particulier.
Oui.
Oui, c'est l'île aux enfants. Alors, on va parler d'un petit manga qui est très sympathique, qui est fait pour les enfants, je crois.
Oui, tout à fait.
Un peu. Mm-hmm. Il s'appelle Kiani.
Oui.
Ouais, je sais pas si je le prononce bien. Hein.
C'est ça.
J'ai dit Kiani.
Oui,
Kiani, souvent, par les éditeurs ou les représentants. Ouais.
Et c'est des histoires d'enfants qui font pas mal de conneries.
Oui, l'histoire de deux frères dans un monde imaginaire qui est justement structuré en différentes îles. Je ne dis pas qu'on est à Stockholm dans son archipel, mais je veux dire, c'est tout un monde. Justement, le choix de la chanson de l'île aux enfants est bien trouvé. Bravo Jean-Marc, bravo. Ouais,
c'est voilà. Une transition brutale avec la dystopie cyberpunk.
Tout à fait.
Oui.
Et il y a juste une petite remarque, un graphisme qui est très intéressant, j'aime bien, qui est un petit peu stylisé, on dirait des stickers ou des smileys, je ne sais pas quoi. Mm-hmm.
Au scénario, Kevin Tran, et puis au dessin, Fanny Antini. Donc c'est vrai qu'on fait une petite sortie là, du manga japonais, mais en même temps, on est complètement dans du manga. En fait, de par effectivement la disposition du volume, le sens de lecture, et puis on retrouve aussi un... des expressions qui sont propres au dessin, à l'influence du dessin animé japonais, façon un peu Pokémon, et notamment, ça m'a rappelé les déboires de la Team Rocket. par une certains côtés.
Mais au niveau de la lecture, ça c'est une remarque personnelle, c'est moins déstructuré que d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce que tu appelles le système de la gaufre.
Le gaufrier.
Donc finalement, on arrive à se repérer plus facilement.
Mm-hmm. Oui.
Donc j'ai eu moins mal
les
à la
cases
tête,
sont après. En panoramique, en fait. C'est pour ça, mm-hmm. tu n'as pas les cases mm-hmm. verticales. Parce qu'à un moment donné, dans le manga japonais, tu as toujours ton sens de lecture est mis à l'épreuve, en fait, par la partie inférieure de la page. Où là, tu as d'un seul coup une case format portrait qui...
parce qu'en général, dans le manga, mm-hmm. tu as une lecture verticale.
Oui.
Et puis ensuite de droite à gauche.
De droite à gauche, et puis ça reste de haut en bas, hein, ne t'inquiète pas.
Oui, j'ai dit que c'était vertical.
Oui,
ça
oui,
montait.
Tout à fait.
Ascendante.
Oui. Hein.
Lecture ascendante. Ouais. Et c'est un petit bouquin qui est vachement sympa. C'est
oui.
un peu.
Bah, c'est plusieurs sketchs en fait, et qui en même temps permettent d'explorer justement ce monde imaginaire composé de plusieurs îles, qui ont chacune une fonction, c'est ça qui est tout à fait intéressant, à travers les relations entre deux frères, dont un espèce de grand frère. Je ne dis pas que c'est des souris et des hommes, hein, si tu veux, mais c'est vraiment deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre, sachant que le grand frère a quelque chose de très, comment pourrait-on dire, comment définir ce type de personnalité en fait, il a quelque chose de quasi surhumain en fait, mais l'air de rien, c'est-à-dire pour moi il m'a rappelé beaucoup Kung Fu Panda.
C'est
en
ça.
Fait oui,
oui.
D'ailleurs il y a
peau,
des références
des bonheurs oui. mais physiquement invincible pour d'obscures
oui.
raisons
oui voilà exactement et plein d'une espèce de joie de vivre ne pensant mm-hmm. qu'à la nourriture. Le premier sketch est vraiment
pensez Balou sous
oui. oui
avec de l'ADN de kryptonien.
Oui, il y a de
sans
ça.
Sans le slip par-dessus le pantalon.
Il y a de ça, exactement. Donc, sachant que nous avons une présentation du village au centre où ils habitent, donc, et ça s'appelle le Royaume des Couleurs, donc décrit comme un vaste domaine composé de deux îles inexplorées, qui en fait composent ni plus ni moins que les oreilles d'une sorte de petit nounours qui sourit. Et donc, ces deux frères vivent sur l'une de ces îles. Et moi, j'ai beaucoup aimé, notamment, en fait, l'histoire qui introduit le volume, à savoir la ceinture noire. Et je dois avouer que quand on connaît un petit peu, enfin moi très modestement, hein, les arts martiaux, on a envie de rire. Voilà. Donc quand on connaît l'évolution du bujutsu vers des sports japonais comme le judo, le taekwondo, et que l'on voit en fait le grand frère défier le maître du dojo et se moquer de lui de façon vraiment extrêmement drôle, surtout par rapport à la notion de règles et de discipline.
Rupture voilà. de règles, d'étiquette et marouflage
oui.
de maroulette.
Voilà, exactement, avec des histoires de confusion autour de la couleur de la ceinture, parce que ce soit en kung-fu, hein, qui est plutôt un art martial chinois, et donc au judo, au taekwondo, il y a une
le taekwondo est coréen, par contre.
Ah, coréen. Ah, je suis désolée. Je...
Pas de soucis. Parce que ça risque de vexer des Japonais.
Ah oui, d'accord.
Les amoureux du pays du soleil levant.
D'accord.
Ceux qui nous écoutent là-bas, très loin.
Oui, voilà.
Faire
oui.
attention.
Oui, exactement. Mais nous nous sommes rattrapés, merci.
Pas de souci.
Donc, effectivement, il y a toujours cette... comme c'est de l'initiation, en fait, évidemment, il y a des niveaux à atteindre, mais surtout, ce qui est très fort, c'est effectivement ces ceintures qui, à un niveau élevé au-delà de la ceinture noire, reprennent la couleur de la première ceinture de...
C'est ça.
De, comment dire...
néophyte.
Du néophyte. Pour dire que l'on doit toujours apprendre que effectivement les arts martiaux
c'est un devenir
permanent.
Fini, en fait.
Oui.
Ainsi va la voix.
Oui. Ainsi va la voix effectivement. Voilà. Donc c'est très drôle, c'est vraiment plein d'humour et encore une fois on sent bien l'influence du rythme. Enfin moi je vois une influence Pokémon en fait et l'influence des dessins animés par rapport à la façon dont les personnages se comment dire
évolue
et aussi leur expressivité qui est devenue très courante hein, notamment dans les mangas pour les jeunes si on prend
c'est
Fairy Tail,
c'est un excellent exemple justement du type de graphisme qui est employé pour les mangas pour les plus jeunes
oui
ouais, et puis dans le rythme
c'est très expressif oui. c'est simple
il y a la vraiment... narration aussi
mm-hmm. oui
voilà donc c'est un petit manga très sympa qu'on peut conseiller au moins de 18 ans, ils ont le droit.
Sans problème.
Oui, tout à fait. Oui. Qui est très drôle. Alors, il faut faire attention.
À partir
parce
de 4 ans, sans problème.
Oui, à partir de 4 ans.
Je plaisantais.
Oui. Mais vraiment, oui, c'est l'univers de l'enfance. Et en même temps, les parents peuvent s'inquiéter parce que je trouve que quand on lit ça, on se dit mais les enfants sont pleins d'esprit et en fait, ont un côté très, très, très moqueur. Donc, il y a un regard sur l'enfance qui franchement, est très intéressant au sens où on est complètement dedans et en même temps, par moments, dans certaines cases, à une certaine distance. Mmh. Oui, d'accord. Dans les relations, justement, intergénérationnelles, je trouve.
Bon, on garde aussi celui-là.
Moi, oui, on le garde très sympa, bien. Hein. Ah oui, 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 tout à fait.
On va écouter un petit peu de musique.
Oui,
c'est parti. Back in business.
Ça, c'était pour John Lennon. John, si tu nous écoutes de là-haut, c'est pour toi. Voilà. Là, on va vous parler d'un bouquin de... Je dis bouquin, je préfère que dire manga. Voilà. Takeko Inoue. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Ça s'appelle Vagabond. Donc, comme son titre l'indique, c'est un grand voyageur.
Assurément. Voilà. Alors, Vagabond donc, de Takehiko Inoue, publié par les éditions Tankam, ils en sont à 38 volumes depuis 1998 maintenant.
Ah, donc, il y a de la lecture.
Une série assez longue qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est l'histoire, ou du moins l'adaptation intime, pragmatique et ultimement assez réaliste, donc du roman d'Eishi Yoshikawa sur la vie de Miyamoto Musashi.
Alors,
Miyamoto Musashi,
est-ce,
qui est considéré comme un Kensen, donc les saints du sabre, donc les meilleurs escrimeurs de l'histoire japonaise.
D'accord, mais il n'a pas fait que ça en plus. Hein.
Entre autres, c'était un éminent artiste martial et un homme d'une grande culture. La plupart et de ses œuvres encore aujourd'hui existent encore et sont remarquablement bien conservées.
D'accord, donc c'est un personnage qu'on découvre. Effectivement, il faut peut-être 38 tomes, c'est ça ?
Assurément. Il y a matière encore. Mais...
Parce que là, moi, j'ai lu que le premier.
Jean-Marc.
Donc, Miyamoto Musashi, c'était donc un samouraï qui s'est remarqué assez jeune par son aptitude de sabre.
Il est mythique chez lui. Hein.
C'est ça. C'est l'une des légendes donc, du patrimoine culturel du samouraï et du Japon féodal.
Représenté dans des gravures absolument magnifiques.
C'est ça.
Oui, oui, oui. Très colorées d'ailleurs. Elles sont très particulières quand on les voit. Comme s'il y avait un style qui était propre en fait à ce samouraï.
C'est ça.
Oui.
Très jeune, donc à partir de 13 ans, il a eu l'occasion de faire son premier duel. Un samouraï chevronné qui arrivait dans un village, posait sa pancarte et donc tout éclairant, proposait un duel à quiconque désirait l'affronter pour optimiser sa renommée. Musashi jeune le regarde, prend la pancarte, s'en sert d'arme de fortune et lui fracasse le crâne. À 13 ans.
Ouais.
C'était le début de Menus Errants. Il a participé assez jeune également à la bataille de Sekigahara, qui est l'une des dernières batailles procédant à l'unification du Japon sous le shogunat Tokugawa. Il était dans le camp des perdants. En tant que simple piéton désargenté, disons. Il a survécu, et par ce biais, en tant que déserteur ou autre, il a décidé donc de continuer sa route et de voyager dans tout le Japon pour optimiser justement son art.
Mais il a été persécuté en tant que déserteur. C'est ce qu'on lit notamment dans les deux premiers tomes de Vagabond.
C'était le cas de toutes les factions perdantes, chassées à la fois par les pilleurs de champs de bataille comme les patrouilles subsistantes.
Oui.
Il s'en sort comme il peut.
Oui.
On s'en bon an mal an, donc avec son camarade Matahachi, ils viennent du même village, qui ne partage pas sa valeur au combat ni sa sagesse, mais voilà.
Oui, puisqu'il fuit en fait avec une femme dont il tombe amoureux et laisse justement son ami assailli par des gardes, oui, des brigands, oui, dans un sont des brigands effectivement, dont il avait tué le chef.
C'est ça.
Donc assailli par ces brigands dans une maison en flammes.
Il s'en sort, il va voyager jusqu'à Edo, qui était la capitale du Japon féodal.
Oui.
Et au gré de son enthousiasme tout assez juvénile, ou de sa folie, il franchit la porte du dojo des Yoshioka. Donc le clan des Yoshioka, c'était le clan qui fournissait les instructeurs et les maîtres d'armes du shogun.
D'accord.
Donc une maison en grande renommée de grands samouraïs. Et en tant que... il se faisait désigner comme pecno mal peigné, littéralement.
Oui.
Et il maroufle la margoulette, justement, au samouraï local. Avec un sabre en bois, il en tue beaucoup.
Les esprits s'échauffent.
Oui, avec un sabre en bois, oui. Oui, oui, il est connu effectivement pour avoir, comment dire, commis ses premiers exploits avec cette arme particulière.
D'accord.
Et donc, historiquement, il fait du grabuge chez les Yoshioka. Il parvient à s'enfuir. Il est quand même plus ou moins malmené par l'un des frères des fondateurs. Mais il propose donc de revenir dans un an quand il aura mûri. Et donc, il poursuit son voyage. Et c'est des étapes historiques, on va dire, de la vie de Miyamoto Musashi. Bon, plus tard, il reviendra un an après, donc retour chez les Yoshioka. Il abattra les deux frères, donc les fils du fondateur, et se retrouvera dans une circonstance un peu particulière, confuse par l'histoire, mais véridique, où tout le clan entier lui sautera dessus sur la plaine d'Ishimonji, à 70 contre 1.
Ah !
Il survivra. Et il rentrera dans la légende contemporaine, donc dans sa légende contemporaine suite à ça.
Je pense qu'on peut effectivement après rentrer dans la légende.
Oui.
Oui.
J'ai une question bête. J'ai souvent des questions bêtes. Mais quand est-ce qu'il trouve le temps de dessiner ?
Sur la route. Beaucoup de sculptures sur bois, notamment.
D'accord.
De la peinture. Il est initié notamment par le cadre d'un autre personnage historique, qui est le moine Takuan, Soro, lui-même qui avait écrit notamment L'Esprit Indomptable. Donc un moine bouddhiste également très cultivé, qui a supervisé son éducation plus jeune. Et qui continuera à le croiser, fictivement ou non, sur la route.
Donc, il a quand même une éducation très structurée, très...
Il était plus ou moins considéré comme un enfant sauvage. Il est vrai que c'était assez particulier, son père...
Mais il travaille, il fonctionne un petit peu à l'instinct.
C'est
un instinct guerrier.
C'est ça.
Un peu.
Son aptitude, sa confiance en ses aptitudes et sa volonté d'apprendre.
Ouais. Et c'est très intéressant, il ne reste plus beaucoup de temps, c'est pénible.
Hélas, oui, il y a bien à dire sur la question.
J'aimerais bien qu'on fasse, avant de partir, qu'on fasse un tour de table vite fait, parce qu'on a plein de bouquins qu'on n'a pas eu le temps de traiter.
Oui, on en a un peu partout, effectivement, dont on n'a pas eu le temps de parler.
On va commencer par...
Mes excuses, chers auditeurs. Fausse alerte.
Non, d'accord. Bah, on va faire un tour de table, on va prendre un peu de temps, donc voilà, on va présenter les livres dont on n'a pas parlé.
Très bien, alors Shieza Kobe, donc c'est le titre, hein, de Minetaro Mochizuki. Donc c'est une histoire un peu mélo en fait, donc contemporaine, très 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 graphique en fait, qui est l'histoire d'une petite entreprise japonaise, donc de construction de charpentes qui brûle,
Ne craint pas la crise.
Oui, voilà, justement qui la craint parce que
elle
a été voilà, elle craint le feu et donc il se trouve que les parents du héros de cette histoire meurent dans cet incendie et il va falloir qu'il prenne la décision de se débarrasser de cette entreprise ou au contraire de continuer. Donc il prend la décision de continuer l'existence de cette entreprise et de se battre en fait pour qu'elle puisse pour que les employés continuent à avoir du travail, pour tout simplement avoir un carnet de commandes, ce genre de choses.
Survivre
en dépit de sa personnalité. Parce que donc, ce personnage principal a pour particularité physique en fait, d'être extrêmement timide, voire terriblement introverti.
Tout en étant très grand.
Et donc a une longue chevelure et une longue barbe. On ne voit jamais son visage, en fait. Mmh. Et donc, il va, avec l'aide d'une jeune femme, en fait, réussir à remonter cette entreprise et donc, surtout, prendre soin d'orphelins qui avaient vu leur orphelinat brûler dans les environs, en fait, de l'entreprise familiale. Donc, c'est la façon dont il va bâtir, en fait, ses responsabilités d'homme et sortir, justement, d'un espèce de repli. Alors, j'exagère un petit peu mon propos en disant ça, mais à la limite de l'autisme, en fait. Hein. Voilà, c'est... Alors, ce qui fait la particularité de ce manga, c'est qu'il y a très peu de cases dans chaque page, beaucoup de pleines pages. Et ce qui aussi fait son originalité, c'est son sens d'avoir choisi un style complètement analytique. C'est-à-dire, en fait, bon, il y a certes des cases en fait, qui sont des pleines pages. Le sens du détail, avec en plus, c'est pas du détail en profusion, c'est du détail quand même exposé de façon très sobre, avec un focus en particulier, enfin, comment dire, c'est un manga qui nous donne une certaine éducation du regard, qui bâtit notre regard, nous apprend à regarder. Et notamment là, une chose qui fascine souvent les Occidentaux, enfin moi qui me fascine assez, c'est la chevelure japonaise, qui donc a une texture particulière. Et en fait, cette chevelure est utilisée pour pouvoir attirer le regard à l'intérieur des pages, puisqu'elle s'oppose complètement à la ligne claire, en fait, de
l'arrière-plan.
De l'arrière-plan et puis du style général, voilà, qui est très graphique et en même temps très simple, avec peu de profondeur de champ. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une particularité qui vraiment fondait le charme de ce manga. Qu'en avez-vous pensé, messieurs?
Très bien, ouais, quand j'ai vu la couverture, c'est pour ça que j'avais pensé.
Oui, ça évoque les nonnes, effectivement. Oui,
Imagine voilà. De John Lennon.
Je ne sais quoi, de pop.
Ouais. Et puis j'ai vu Yoko Ono à côté, parce qu'elle est plus petite. Donc,
oui.
Elle a toujours été plus petite.
C'est un John Lennon grunge, quand même.
Oui.
Ouais, bah, c'est arrivé à John Lennon.
Oui.
C'est un choix de composition d'image effectivement remarquable, très clair, et on surprend à errer avec le regard sur toutes les pages.
Non, mais c'est très agréable à lire. Ouais.
Oui, moi j'aime beaucoup en fait.
C'est très dégagé.
Ces planches d'analyse en fait, des gestes, du détail, d'une bretelle par exemple de soutien-gorge qui tombe sur l'épaule. Donc de la façon dont les personnes sont habillées. C'est assez stupéfiant. Et les personnages sont un peu comme des poupées avec lesquelles on jouerait en fait. Donc je trouve que c'est. Oui, voilà. Donc c'est un plaisir de pouvoir. Regarder des cils ou encore des orteils donc de pied d'une personne agenouillée. Là, je vois que les personnages s'expriment beaucoup de dos. Ça, c'est aussi très, très fort. Donc,
c'est assez, dans le manga, c'est assez courant que les personnages s'expriment de dos.
Usuellement, non. Ce qui fait la force, justement, du manga, c'est un usage à la limite de la déformité d'une extrême expression du visage.
Oui, mais souvent...
Par le geste, des onomatopées, par exemple, sont systématiquement représentées graphiquement.
Oui.
Les grands yeux. Une gestuelle souvent qui pourrait paraître excentrique dans la vraie vie, mais qui sert à clarifier le propos.
Entre nous, dans les albums qu'on a vus aujourd'hui, il n'y a pas de grands yeux.
C'est vrai, parce que nous sommes des gens de cou.
Ouais. Et nous resterons debout.
Oui.
Oula. On finit ce tour de table ?
C'est parti.
Il y a un très beau livre que vous nous avez amené, Maxime.
Alors, pour une perspective sur la question des arts martiaux japonais, par exemple, représentés dans le manga Vagabond, une bande dessinée occidentale avait été récompensée au Japon comme meilleure bande dessinée étrangère. C'est la bande dessinée de Xavier Dorisson et Joël Parnot, également avec le soutien de Lutz Horvath, qui est un instructeur des arts martiaux historiques européens. La bande dessinée Le Maître d'Armes, donc qui représente l'histoire, enfin dans le cadre d'une histoire, le développement des arts martiaux historiques européens. Notamment donc l'escrime à l'épée longue. Le personnage de Hans Stallhofer, anciennement maître d'armes du roi, qui s'est vu défaire dans un duel pour désigner le dépositaire de la charge par un individu qui utilise une rapière, le vit assez mal, mais se désengage un peu de la vie d'escrimeur et de la vie générale. Et dans le cas d'une circonstance, notamment l'ancien chirurgien du roi, il porte à sa connaissance la première charge manuscrite de la traduction de la Bible. Donc le début, on va dire, des églises protestantes.
Oui.
Et ils sont pourchassés. Et il sort de sa retraite justement pour escorter donc l'ami du... plutôt le protégé de son ami, qui lui va transporter la dite Bible, traduite, donc jusque des imprimeurs à Genève. Il se fera pourchasser donc par son ancien rival, justement, qui veut mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Et ça sera l'occasion de montrer ses aptitudes et son aventure assez classique. Voilà, mais c'est assez remarquable sur le propos. Oui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que par la coopération de Lutz Horvath, toutes les techniques d'escrime, notamment historiques, à l'épée longue, sont réalistes. D'accord. Et ont bel et bien existé. Oui.
C'est bien parce que on avait prévu de faire une prochaine émission sur le manga dans la bande dessinée française.
Mm-hmm. Oui.
Ou la bande dessinée française qui fait du manga.
Oui.
On peut dire ça comme ça. Et juste pour terminer, il y a encore deux bouquins qui sont assez intéressants. Là où on va de la littérature
Merci.
Au manga.
Oui.
Ce qui est relativement récent, je crois.
C'est ça. Alors, sous les yeux, j'ai une adaptation en manga, donc très graphique, très colorée, très exubérante, on va dire, du Comte de Monte Cristo, d'après donc le roman d'Alexandre Dumas. Écrit et dessiné par Emma Moriyama, aux éditions Kurokawa.
Alors, c'est une question. L'autre, c'est Sherlock Holmes.
Oui, adapté de la fameuse série télé Sherlock, mm-hmm. anglaise.
Non, celle-là est américaine.
Anglaise.
Vous êtes sûr ?
C'est ça.
Ah oui, anglaise, oui,
ils
tout
sont,
à fait.
Le Watson est japonaise. Donc...
Non, le Watson, c'est justement le personnage que vous avez sous les yeux.
Celui-là ?
C'est ça.
Bon, ben, j'ai tout mélangé, c'est pas grave.
Non,
on va secouer nos saladiers.
Oui.
C'est une série qui était publiée donc, sur BBC One à partir du 25 juillet 2010 et qui a eu un succès international phénoménal. Parce que déjà, c'est remarquablement bien fichu.
Oui, tout à fait.
Une réinterprétation mm-hmm. contemporaine du mythe de Sherlock qui remplace l'analyse des montres à gousset par les téléphones portables.
Je signale, il y a une...
Et une adaptation des histoires aussi.
C'est ça,
oui. On ne trouvera pas, par exemple, l'adaptation du Chien des Baskerville de mm-hmm. façon littéraire, en fait. Et c'est... l'histoire est modifiée.
C'est ça. Watson, par exemple, devient un médecin militaire vétéran revenu d'une blessure.
Oui, mais ça, c'est dans le texte original, hein.
Il
a fait la guerre de d'Afghanistan à l'époque, la première guerre d'Afghanistan en 1800 et quelques.
Journalisme note.
Si.
Oui, dans le roman original, oui. Mm-hmm. Oui.
Ouais. Et c'est marrant parce qu'il est beaucoup plus vieux en fait.
Oui.
Dans le roman.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça nous apporte dans cette adaptation en manga ?
C'est une des menues illustrations qui atteste du fait que les Japonais sont très friands d'adaptations de culture occidentale, que ce soit le Comte de Monte Cristo ou les histoires classiques. Représentées graphiquement, ça permet donc de participer au rayonnement culturel occidental. Et les Japonais,
d'accord.
Beaucoup.
C'est une demande des Japonais.
C'est ça.
Quelque part. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Un petit Dracula qui traîne.
Oui, le meilleur d'Uzumu Tezuka, effectivement, un tome de Don Dracula, qui n'est pas forcément le plus connu, évidemment, de Tezuka, mais qui est très drôle, hein. C'est un manga pour enfants, et il y a énormément d'humour noir dedans. Alors, quelquefois, des scènes un peu violentes, parce que Tezuka ne va quand même pas oublier que Dracula, c'est Dracula, mm-hmm. voilà.
Et on lui remercie, pas de paillettes au soleil, tout ça.
C'est le comte Vlad.
Oui, tout à fait.
C'est comme Poutine, Vladimir.
Et on a même un hommage en fait à la littérature fantastique, mm-hmm. puisque à l'intérieur on va retrouver des personnages jusqu'à la créature du lac noir hein, de ce film des années 50.
Le premier film en 3D, c'est ça. Ouais,
en exactement. Passant par la première histoire de vampire, hein, Camilla. En fait, non, pas Bram Stoker. En fait, d'accord. Sheridan Le Fanu, en fait, avec Carmilla.
D'accord.
Donc le premier vampire dans l'histoire littéraire est une femme, en fait. Et justement, il y a un petit épisode consacré à...
Elle a toujours raison.
Non, enfin bon... Et donc, effectivement, cette femme est la femme de Dracula qui veut venir récupérer sa fille, Chocolat. Et ça pourrait être un drame familial.
Et pourquoi elle est Chocolat ?
Parce qu'en fait...
Elle a des problèmes
Mais Tezuka alterne toujours, en fait, comment dire, il a ce sens de l'alternance entre le genre, en fait, quitte à ce que ce soit du genre fantastique, même un peu d'horreur, hein, disons-le, mm-hmm. puisque, bon, il y a des morts, mais, et de l'autre, un humour beaucoup plus léger qui peut revenir vers des histoires complètement enfantines. Mm-hmm. Ça, moi, je suis absolument sidérée par Don Dracula. Là, et puis, bon, il y a son style, hein. Qui est tellement fin que
mais
je trouve...
Pourquoi il s'appelle Don Dracula ?
Don Dracula.
La particule est cohérente, ça fait mafieux.
Oui, voilà, exactement. Il y a quelque chose
dans
un peu de cet ordre-là.
Son allure vestimentaire, c'est clairement des rappels du parrain.
Oui, Oui, je pense que chez lui, c'est une façon de dire que c'est ça, une façon de dédramatiser aussi, peut-être justement. Don Dracula, c'est pas Dracula, c'est quelque chose d'autre. C'est vraiment une interprétation. Moi, il y a des moments que je trouve très jolis, c'est quand Dracula et Chocolat, en fait, tous les deux, donc rentrent à la maison, transformés en chauve-souris, donc et la petite fille donne, enfin, elle est.
Et ça, du côté un petit peu famille Adams.
Oui, tout à fait, Charles Adams. Et on retrouverait les dessins de Charles Adams.
C'est manifestement une des inspirations pour le film Hotel Transylvania, par exemple.
Oui, Charles Adams, oui. Oui, oui, tout à fait.
Eh bien, je crois que nous avons fait le tour.
Hélas.
Je vous remercie tous les deux.
Merci également. À toi.
Oh non, je n'y suis pour rien. Je ne fais que de la figuration.
Oui.
Pour info, il a un grand sourire.
Ouais. On va remercier tout le monde. Donc... la boutique, d'abord Maxime, et la boutique Mangaya, qui devient un nouveau partenaire.
Hein. Pour vous servir.
Merci. On remercie mon barbon, comme d'habitude. Et le cercle des poètes disparus.
Voilà, le réseau de lecture publique qui, comme à chaque émission, se fait évidemment...
Je fais exprès.
Oui, voilà. Non, mais je sais que tu n'y arriveras jamais et ce sera toujours un plaisir de te reprendre à
mes
chaque fois, Jean-Marc.
Mes amitiés à Sophie, d'ailleurs, qui se reconnaîtra.
Ah oui, et je la reconnais, effectivement, en entendant son prénom. Donc voilà, le réseau de lecture publique de la ville de Bourg-en-Bresse, à savoir ses médiathèques. Voilà.
Il y en a trois. Hein.
Oui, il y en a trois. Oui, on a la chance d'en avoir trois.
Voilà. Donc, si vous voulez voler des livres, allez en librairie. Si vous les empruntez, c'est plus cool.
Oui, je rappelle à notre agréable auditoire que les armes contondantes sont mises à disposition du personnel dans toutes les librairies burgiennes.
Pour se défendre.
Je remercie.
Une pelle et un alibi.
Vous avez le droit de défendre vous bien.
Tant que personne ne nous voit.
Je remercie Pauline, sans qui rien ne serait possible. Rien ne serait possible pour la musique et tout ça. Et tout ça.
Oui, on remercie ceux qui sont les vivants et les morts pour la musique.
Et je remercie les auditeurs, je remercie Radio B, je remercie Dieu d'exister. Oula, ça va fort aujourd'hui. Ben, on va se quitter. On va écouter notre petit jingle.
Oui.
Et on va sauter en même temps.
Oui,
c'est parti.
C'était beau, l'île aux enfants.
Ah oui, que de souvenirs.
Assurément.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Oui,
des.
Clip, crop,
des.
Bang,
des.
Blanc,
et des.
Zip, chibar, pa, blanc.